Bonsoir, comment allez-vous? Ce week-end, j'ai recopié mon petit carnet. Autrefois, nous avions un petit carnet avec les numéros de téléphone. Il y avait des pages qui restaient vides et d'autres qui étaient pleines à ras-bord. C'était agaçant, ce répertoire déjà terminé dans certains domaines et à peine entamé dans d'autres. Vous savez, comme les boîtes de gâteaux variées, il y en a qui partent tout de suite, ceux au chocolat, et d'autres qui traînent, empêchant de passer à une autre boîte. Comme tout le monde, j'ai laissé tomber le petit carnet quand j'ai rentré les numéros de téléphone dans mon propre téléphone pratique. Et là, je viens de rouvrir un petit carnet pour marquer mes mots de passe. Alors là, il y en a à toutes les pages. Hein. Apple, banque, Facebook, Gmail, impôts, Litchi, WhatsApp, Yahoo. Avant, j'avais le même mot de passe pour tout. C'était toutou, justement. Eh ben oui, ben c'est terminé, toutou. Il faut 8 caractères, des minuscules, des majuscules, des chiffres et tout le tas de soins. J'en ai des milliers et il me faut à nouveau un petit carnet. Mais oui, Eliane, je peux rentrer mes codes dans mon téléphone. Mais le code de mon téléphone, je le marque où? Dans mon ordinateur? Et le code de mon ordinateur?
Bonjour, je m'appelle Lilio, j'ai 9 ans. Je voudrais vous poser cette question. Alors, combien de gigas notre mémoire peut contenir?
Combien de gigas notre mémoire peut contenir? Demande Lilio Michel Baudouin Lafont. Vous êtes professeur d'informatique, entre autres, à l'université Paris-Sud.
Alors Lilian, je suis informaticien, donc je vais te donner une réponse d'informaticien. Je pense que ce sera bien de poser la question aussi à un spécialiste du cerveau. Alors ma réponse d'informaticien, c'est d'abord qu'est-ce que c'est un giga? Alors un giga, c'est l'abréviation de gigaoctet. Un octet, qu'est-ce que c'est? Octet, 8 bits, les bits d'information, c'est les fameux 0 et 1 de l'informatique. D'accord. Donc lorsque je peux mettre côte à côte 8, 0 et 1, je peux en fait représenter un nombre entre 0 et 255. Alors ça nous permet par exemple de représenter toutes les lettres de l'alphabet, majuscules, minuscules, accents, etc. sur un octet. Donc un octet, un caractère. Alors giga, alors vous connaissez les kilos, oui. C'est 1000. Les mégas, c'est 1 million. Le giga, c'est 1 milliard. Un gigaoctet, c'est 1 milliard d'octets, 1 milliard de caractères.
Giga gigantesque.
Voilà. Alors après, on en a d'autres, on a les terras, etc. Parce que vous savez, l'informatique veut toujours faire plus grand et plus gros. Donc,
alors, quand vous dites Michel Baudouin Lafont, terra, etc., c'est quoi, etc., terra, et puis quoi? Vous en avez encore des
oui,
noms?
Oui, il y a péta, hexa.
Pas mal pour les mots croisés.
Après,
ça.
Je ne connais plus. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'avec un gigaoctet, si les octets représentent des caractères, une feuille de texte, c'est à peu près 1000 à 2000 caractères. Donc, un gigaoctet, ça va être 500 000 à 1 million de pages. Mais vous savez que si vous prenez une photo, vous l'envoyez par exemple en attachement dans un message, elle peut faire elle-même déjà 1 méga. Donc ça veut dire que 1000 photos, ça représente 1 gigaoctet. Et puis si vous téléchargez une vidéo, légalement bien sûr, une vidéo d'une demi-heure à peu près, ça va faire 1 giga. Donc avec 1 gigaoctet, on peut représenter une demi-heure de vidéo, 1000 photos ou 1 million de pages de texte. Donc ça nous amène à la notion d'information. Qu'est-ce que c'est qu'on représente dans ces gigaoctets? Et alors, Claude Shannon est un chercheur américain qui a inventé la théorie de l'information, qui a permis de formaliser qu'est-ce que c'est que l'information et qui est à la base de, notamment, toutes les techniques de compression qui aujourd'hui nous permettent de faire rentrer de plus en plus d'informations dans la mémoire de nos ordinateurs. Et l'information de Shannon, c'est quelque chose qui est peu intuitif parce que l'information, c'est ce qui nous permet de réduire l'incertitude. Si je vous dis aujourd'hui il fait beau, on voit par la fenêtre qu'il fait beau, donc j'apporte pas d'information. Mais si je dis demain il va pleuvoir, c'est une information parce que peut-être vous ne le saviez pas. Donc la notion d'information, c'est ce qui est apporté de nouveau par rapport à ce que l'on sait déjà ou que l'on peut anticiper. Et donc lorsque l'on encode et lorsque l'on compresse des photos, des vidéos et même du texte, on utilise ces propriétés de l'information. Un film, c'est des images, mais en fait, les images se ressemblent beaucoup. Donc on peut gagner beaucoup de place en économisant ce qui est redondant d'une image à l'autre. Alors quel rapport avec la mémoire humaine? Parce que la question de Lilian quand même, c'est combien de gigas dans notre mémoire, pas dans la mémoire de l'ordinateur.
Dans notre cerveau à nous d'humain.
Alors notre cerveau à nous d'humain, il n'est pas comme celui d'un ordinateur. Et en fait, on ne sait même pas très bien, alors comme j'ai dit, je ne suis pas un spécialiste du cerveau, mais on ne sait pas très bien comment est stockée l'information dans notre mémoire. Je pense que ça a des liens avec la théorie de Shannon, avec cette notion de compression, parce qu'on ne mémorise pas tous les détails.
Et puis notre tête n'a pas 1 kilomètre de large.
Absolument. Mais par exemple, un chercheur américain récemment a évalué que la capacité, alors c'est en comptant les synapses, donc moi je ne suis pas très sûr que ce soit une bonne méthode, mais il a estimé à 100 téraoctets. Donc ça fait 100 000 milliards de gigas dans le cerveau.
C'est énorme.
Mais en fait, le problème de notre mémoire, c'est pas tant ce qu'on peut stocker, c'est comment on peut le rappeler, comment on peut se souvenir.
À le retrouver.
Le retrouver. Donc la magie de la mémoire humaine, en fait, par rapport à la mémoire de l'ordinateur qui est très bête,
c'est qu'elle retrouve.
C'est qu'elle s'est retrouvée par association, alors que la mémoire de l'ordinateur, lorsque les choses, on ne sait plus où elles sont, on ne sait plus les retrouver.
Eh bien voilà, Eliane me dit qu'avec 100 000 milliards de gigas de mémoire, je ne dois pas marquer mes mots de passe sur un papier, mais les imprimer dans ma tête. Eh bien, nous voilà bien, parce que moi, je n'ai pas la tête de Pascal Cossard, professeur à l'Institut Pasteur, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences spécialisée en microbiologie cellulaire.
Bonjour, je m'appelle Paul et j'ai 6 ans. Je voudrais savoir si les microbes ont un corps. Au revoir.
Alors, bonjour Paul. Bien sûr que les microbes ont un corps. En fait, ils ont une forme. Il y a, d'abord, je vais te dire que les microbes, il y en a beaucoup de toutes les sortes. Il y a des bactéries, il y a des parasites, il y a des amibes. Donc, ils ont une forme qui est tout à fait caractéristique de leur identité. C'est-à-dire qu'une bactérie va pouvoir avoir la forme, une forme ronde, une forme allongée. Si on parle d'une amibe, elle va être beaucoup plus molle. Elle va être capable de flotter, de se propager. Donc, tous les microbes ont une forme précise, mais ils ne vont pas grandir au-delà d'une certaine forme qui est la forme où ils vont se diviser en deux ou se diviser, se multiplier.
Les microbes, Pascal Cossard, se reproduisent, s'agrandissent, se multiplient, toujours en se divisant comme ça en deux ?
Ah, ça dépend des microbes. Là, moi, je vais vous parler, par exemple, les bactéries. Les bactéries, elles se divisent par division, ce qu'on appelle une division binaire. Une bactérie va donner deux bactéries. Mais comme je disais, les microbes, c'est vraiment le terme générique qui regroupe soit des amibes, soit des bactéries, soit des parasites. Et là, c'est un tout petit peu plus compliqué dans le cas, par exemple, des parasites.
Les microbes, c'est tout le monde. C'est tout ce qui est tout petit.
Voilà, ça vient du grec micro. Micro veut dire petit. Donc, sitôt que vous êtes obligé de regarder avec un microscope, on est dans le domaine des microbes.
Ah, c'est bien, ça fait un moyen mnémotechnique. Microscope, microbe.
Exactement.
D'accord.
Hey. Les plus grands sages disent que le vrai bonheur est dans l'équilibre. C'est peut-être la débilité, mais j'ai jamais voulu la vie tranquille de quiconque. Petit, j'avais pas trop sommeil. Mourir au sommet comme King Kong, le seul rêve qui compte. Mais pourquoi moi? Pourquoi je serais différent des autres? Mon seul don, c'est vouloir être différent des autres. Et pour ça, j'ai la rage de vaincre, la rage d'être le meilleur sur la page de vin. Si jamais ça marche, je pars plus comme une tache de vin. Oh, j'ai l'impression de m'entendre dans mes premiers morceaux, toujours à crier comme un connard morceau. Sauf que maintenant, j'ai plus 19 ans, et je crois bien que les gens bizarres du showbiz disent que mes disques se vendent. Yes, concert complet dans toutes les villes de France, on était déjà passé par là en van. Sur scène, je donne tout, j'en ai 2000 devant, mais je suis toujours mal à l'aise quand je parle à un fan.
Évidemment que je veux briller comme l'or, j'ai passé ma vie invisible comme l'or. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Des millions d'heures seules dans le noir, Dieu merci j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Sert plus à rien de m'aimer maintenant. Seul à 3h du mat, dans un bar on peut reconnaître pâle. Sous ma poitrine c'est plus froid qu'en Islande. Dans mon caleçon c'est plus chaud qu'au Népal. Je fais que déconner, pardon. Chaque semaine je couche avec une nouvelle fille que je connais pas. Est-ce que j'essaie de me venger? Me venger de toutes ces années où je plaisais moins aux filles que les mecs dérangés. Où je me sentais partout étranger. Où je servais qu'à nourrir leur ego quand c'est pétasse. Ouais, aujourd'hui c'est moi qui monte les étages, ouais. Bon d'accord, j'étais consentant quand je rentrais dans leur spirale. C'était toujours mieux que d'être invisible. Maintenant je ressens plus rien, je m'intéresse plus qu'à leur physique. Et tous les soirs le diable me rend visite. Fini les grosses gaffes, trop fausses gamins, j'étais tellement bête. Je veux un Oscar pour chaque film que je me suis fait dans la tête. Merde, avant j'étais un peu froid, maintenant je le suis complètement. C'est trop tard pour combler le manque.
Évidemment que je veux briller comme l'or, j'ai passé ma vie invisible comme l'or. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Des millions d'heures seules dans le noir, Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi.
passé ma vie invisible comme l'air. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant, ouais? Des millions d'heures seules dans le noir. Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Sert plus à rien de m'aimer maintenant.
C'était évidemment de l'homme pâle, évidemment que je veux briller comme l'or. J'ai passé ma vie invisible comme l'air, chantait-il. J'ai envie d'ajouter, et alors? L'air est doux et sec ou humide ou piquant, mais souvent doux et toujours indispensable. J'aime l'air et je ne peux pas m'en passer. Et si l'or m'éblouit, je m'en passe très bien. Finalement, il vaut mieux être comme l'air que comme l'or, non? À propos d'or, voici un roi qui était sobre, d'apparence en tout cas.
Bonjour, je m'appelle Alia, j'ai 8 ans et demi et je voudrais savoir pourquoi François Ier est toujours représenté dans un costume noir et blanc. Merci.
Bonsoir, merci Alia pour ta question que nous proposons à un historien, Denis Brunat, historien des modes et des vêtements. Vous avez écrit un gros livre édité chez Textuel Magnifique, écrit avec Chloé Demey. Histoire des modes et du vêtement du Moyen-Âge à nos jours. A-t-elle raison Alia avec François Ier en noir et blanc?
Oui, elle a parfaitement raison. D'ailleurs, la plupart des princes au tout début du XVIe siècle s'habillaient essentiellement en noir. Et là, il faut remonter un petit peu plus haut dans l'histoire. Il faut remonter notamment vers 1300. Dans des pays comme la France, l'Angleterre ou l'Italie, l'on voit apparaître la mode du noir. Alors, cette mode du noir se répand puisqu'il y a des catégories socio-professionnelles n'ont pas le droit notamment de porter le rouge qui est vraiment la couleur des princes. Et donc, il y a des textes de loi qui interdisent précisément de porter le rouge. Et alors, ces catégories socio-professionnelles que sont par exemple les légistes, les juristes, les magistrats, les maîtres des universités, sans doute par dérision ou par provocation, vont choisir la couleur noire, puisque c'est la couleur à l'époque de la modestie, et cette couleur n'est absolument pas concernée par ces textes. Si bien que le noir, avec ces métiers-là, va progressivement devenir la couleur du sérieux, de l'autorité, de la morale, et c'est aussi l'époque où le noir va commencer à s'écarter du domaine de la mort, des ténèbres, et progressivement, elle va devenir une couleur à la mode. Et c'est la technique aussi qui va permettre au noir de devenir une couleur en vogue, parce que jusqu'à présent, on avait beaucoup de mal à fabriquer des beaux noirs, on fabriquait des bruns, des marrons foncés. Les teinturiers, qui étaient souvent des filous, faisaient notamment des bruns très foncés et saupoudraient notamment les étoffes avec de la cendre, avec du charbon, donc on imagine que ça tenait mal. Mais là, on arrive à cette fin du Moyen-Âge à fabriquer du noir avec de la noix de gale, qui est une petite excroissance sur les feuilles de chêne formée par un insecte. Or, la noix de gale, elle vient de très loin. Elle vient soit de Pologne, soit d'Afrique du Nord.
Donc c'est cher.
C'est très cher, c'est loin et il en faut surtout beaucoup. Et par conséquent, ça devient une couleur qui est réservée à une élite. Et progressivement, on voit que la couleur, au cours du XVe siècle, ce beau noir profond, devient la couleur des princes. Alors par exemple, le duc de Milan emporte, Charles VI, le roi de France, et surtout, j'allais oublier le principal, Philippe le Bon, le duc de Bourgogne, fait du noir sa couleur. Et c'est devenu la couleur des princes, la couleur des puissants, c'est devenu aussi la couleur de l'autorité. Et c'est pour cette raison que la plupart des princes, et dont François Ier, portent du noir.
Vous pouvez réécouter cette réponse sur franceinter.fr.
Bonjour, je m'appelle Simon, j'ai 6 ans. Je voudrais savoir si je peux faire pousser un arbre au chocolat dans mon jardin. Voilà, merci.
Bonsoir Clément, peux-tu faire pousser un arbre à chocolat dans ton jardin? Alors nous avons proposé ta question à Laurence Alemano, qui est biologiste et qui maintenant a ouvert une boutique de chocolat à Paris. Alors, quel est le vrai nom de l'arbre à chocolat, Laurence Alemano?
Alors l'arbre à chocolat s'appelle le cacaoyer. Alors je comprends que Clément ait envie de faire pousser un cacaoyer dans son jardin. En fait, ça n'est pas possible. Pourquoi? Le cacaoyer est un arbre qui est originaire de la forêt amazonienne. Donc, les conditions de culture, c'est un climat très chaud et surtout très humide. Le cacaoyer ne supporte pas des températures inférieures à 17 degrés, par exemple. Et il faut absolument qu'il y ait beaucoup d'humidité dans l'air.
Donc, si le jardin de Clément est en France, ça ne marchera pas. Il faut qu'il soit dans un pays chaud et humide.
Exactement. À moins que Clément ait une serre, une serre chauffée, donc, bien avec sûr. Des températures de 20-30 degrés. Et qu'il y ait aussi un système de pulvérisation d'eau pour que l'atmosphère soit humide, un peu comme quand on prend sa douche.
Eh bien, s'il mettait un pot dans sa salle de bain, ça monte jusqu'où un cacaoyer?
En forêt, ça monte très très haut, jusqu'à 12-14 mètres, ce qui n'est pas très haut pour une forêt amazonienne.
Pour la salle
de bain,
parce
que c'est un arbre qui pousse à l'ombre.
Donc, qu'est-ce qu'il demande encore le cacaoyer? Une terre comment?
Il demande une terre très, très aérée. Car les racines, autant la partie atmosphérique a besoin d'eau, mais les racines ne doivent pas être dans un sol gorgé d'eau. Donc ça doit être un sol qui laisse filtrer l'eau et qui permet de respirer.
Et comment on fait? On prend une fève, on la met dans la terre?
Il faut prendre des fèves fraîches, c'est-à-dire qu'il vous faut acheter une cabosse fraîche. On peut trouver à Paris, mais c'est pas très facile. Et puis ensuite, oui, on la débarrasse de la pulpe qu'il y a autour de la fève, qui est au demeurant excellente à sucer. Et puis on la met sur un petit substrat, un peu de sable humide, et on attend.
Et on attend. Souvent, c'est ça la culture. Il faut savoir attendre. En tout cas, merci pour cette question. Ça vaut le coup de tenter l'expérience. Et puis après, ce sera peut-être l'occasion d'un voyage, d'aller transplanter son cacaoyer en forêt amazonienne quand il sera devenu trop grand pour la salle de bain.
I'm just mad about saffron. Saffron's mad about me. I'm just mad about saffron. She's just mad about me. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow. About 14, 14's mad about me. I'm but just mad about 14. She's just mad about me. They call me mellow yellow. They call me mellow yellow. Quite rightly, they call me mellow yellow. A wind of a lost nil. On a high forever to fly. If you want your cup, I will fill. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow, quite rightly. They call me mellow yellow.
Mellow Yellow, énorme succès du chanteur Donovan écossais né à Glasgow.
Bonjour, je m'appelle Circe, j'ai 6 ans et je voudrais savoir comment on détruit un immeuble. Au revoir. Au revoir et merci.
Bonsoir Circe, comment on détruit un immeuble? Damien Orcel, vous êtes responsable du développement chez Ginger Deleo, donc c'est votre secteur, la démolition. C'est vrai, comment s'y prend-on? Elle a raison Circe.
Alors pour déconstruire un immeuble, on parle de déconstruction et puis de démolition.
Ah d'accord, déjà.
C'est qu'on avance par étapes. D'abord on fait des diagnostics du bâtiment pour connaître la présence éventuellement de pollution, d'amiante, de plomb, de pollution chimique. On caractérise les déchets, on regarde qu'est-ce qu'il va y avoir dans le bâtiment. On fait un grand état des lieux du bâtiment. Et puis ensuite, on va regarder un petit peu comment le bâtiment se situe dans son contexte. Autour, il y a des rues, des voisins, des immeubles à proximité. Et donc derrière, on va envisager la méthode de démolition. Et donc, il y en a plein qui existent. Il existe des démolitions manuelles quand on est dans un milieu très urbain avec beaucoup d'immeubles autour. Donc manuel, c'est-à-dire qu'on envoie des gens déconstruire manuellement, casser des murs et descendre étage par étage.
Ah oui, ils commencent par le haut, j'imagine.
Exactement. On protège tout autour. Et puis, ils démolissent les niveaux les uns après les autres. On peut avoir des déconstructions qui sont faites mécaniquement, donc avec des pelles mécaniques, des gros tractopelles qui démolissent l'immeuble quand on n'a pas trop de voisins, quand on est un peu libre. Et puis après, il y a plein de techniques de démolition, comme la démolition à l'explosif, le foudroyage.
C'est la plus spectaculaire, c'est celle qu'on voit aux informations télévisées avec une barre qui
Exactement.
Tombe dans un fracas et de la poussière.
C'est ça en fait, vous avez des grosses opérations d'aménagement urbain dans des grands quartiers, souvent des années 70, où on fait du foudroyage, donc de la démolition à l'explosif, de grandes barres HLM. Et donc pour ça, on regarde aussi ce qu'il y a autour, on regarde les pollutions qui sont dans les bâtiments. Bien sûr, on les retire, on appelle ça le curage du bâtiment, de nettoyage du bâtiment avant de l'acte de déconstruction. Puis on affaiblit le bâtiment, on met des charges explosives et puis derrière on tire et c'est assez spectaculaire effectivement.
Ça on affaiblit le bâtiment.
Oui, ouais. On affaiblit au préalable, c'est-à-dire qu'on dimensionne, alors ça c'est vraiment notre métier, dimensionner un peu les charges explosives qu'on va mettre dans le bâtiment. On affaiblit, donc on fragilise un petit peu le bâtiment, pas trop pour qu'il tienne encore. Et puis après derrière, avec les charges explosives, on a une démolition qui se fait en quelques secondes.
Est-ce que c'est un métier à part entière? Ce qui est le plus spectaculaire, c'est-à-dire... Les artificiers?
Les artificiers qui font le tir à l'explosif, c'est vraiment un métier bien spécifique. Et c'est quelque chose sur lequel il faut un savoir-faire, des qualifications. Puis on ne fait pas les choses n'importe comment. Il y a aussi un travail avec l'administration pour évacuer. Il y a des périmètres de sécurité. Il y a toute une phase vraiment amont de préparation qui est très importante. Et puis l'organisation du plan de tir avec les artificiers, la police, qui va superviser toute la journée. Puisqu'en une journée, ça va remplacer des mois de travaux normalement qui devraient se faire avec des pelles mécaniques et des engins. Là, on va tout abattre un bâtiment en quelques secondes. Donc il faut bien préparer effectivement ces interventions.
Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans votre métier?
Alors, la nouveauté de plus en plus, c'est la gestion des nuisances. Donc on parle des nuisances poussières, les nuisances pour les avoisinants, les vibrations, toutes les interfaces, les circulations de camions qui vont évacuer les déchets. Et puis de plus en plus, le développement durable. Ça, c'est une notion qui est de plus en plus prégnante et de plus en plus présente dans notre métier. C'est quelque chose qui nous porte pas mal. C'est la récupération des équipements, du mobilier, mais également d'éléments muraux, des plaques qui sont récupérées, des vitres. Pas mal de choses qui sont récupérées et qui peuvent être réutilisées sur d'autres chantiers.
Voilà, plus complexe qu'il n'y paraît, la déconstruction. Merci Damien Orcel. Vous venez d'entendre une rediffusion des Petits Bateaux du 5 mai 2019, émission à réécouter sur franceinter.fr. Pas de répondeur au mois d'août, mais le site des Petits Bateaux continue à vous informer. Marjorie Devoucou, Eliane Gérard, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à 19h30. Le généticien Albert Jacquard a répondu à la question « Qu'est-ce qui est arrivé en premier, l'œuf ou bien la poule ?» et l'historien Patrick Boucheron a répondu à celle-ci « Le roi Dagobert a-t-il vraiment existé ?» plus quelques autres. Je vous laisse pour le moment avec Denis Chessou pour La Tulle Mon Petit Loup.